France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Relations toxiques, deux mots que l'on entend de plus en plus souvent pour décrire ces liens qui nous abîment. Le plus souvent, ce sont les relations amoureuses que l'on définit comme telles. Ces histoires, on les a lues dans les romans, vues sur grand écran, écoutées en boucle dans des chansons. Ces histoires, on les a souvent qualifiées de passionnelles. Et si pendant des décennies, on avait dégainé ce mot trop souvent pour désigner des relations dysfonctionnelles, voire carrément toxiques? Mine de rien, ces récits nous ont appris que l'amour, le vrai, devait forcément passer par la douleur. Mais depuis le mouvement MeToo, des voix s'élèvent. On regarde ces récits différemment. On se rend compte qu'ils nous ont parfois appris à tolérer l'intolérable. Alors comment reconnaître une relation toxique? Comment s'en libérer? Et surtout, comment construire un amour qui nous élève au lieu de nous briser? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Nous sommes le mercredi 13 août. Grand bien vous fasse, en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
T'as mis en ruine, hein? C'est pas difficile.
Hein? Je suis divorcée.
Tu m'aimes?
Oui.
Bon, et ben voilà, c'est réglé. L'addition?
Non, c'est pas réglé.
Quoi?
Et le problème, c'est ni toi ni moi, le problème, c'est nous deux ensemble.
C'est une chanson de Cabrel, ça, non? Tu cherches quoi exactement? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux?
Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu es tellement mieux.
Tu te rappelles d'abord que c'est toi qui es venu me chercher?
Moi, je suis venu te chercher.
T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu. Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque.
Ouais.
On quitte les gens pour la même raison.
C'est exactement ce que je pense. C'est pour ces raisons-là précisément.
D'accord. Donc ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment où il faut construire. Hein.
Mais on construit rien.
Ah bon?
Non, on se détruit, c'est tout.
Un extrait du film « Mon roi » de Mai Wen que vous avez peut-être reconnu. Ça nous donne des frissons à nous dans le studio. Ce film « Mon roi », c'est la relation toxique par excellence. Dans cette scène tout y est, la souffrance, la manipulation, c'est tout ce qu'on va explorer ce matin, mais pas que, hein, bien évidemment, on va aussi ouvrir des perspectives. Ce matin, autour de moi, un plateau 100% féminin pour vous décrypter ces relations qui fascinent trop souvent et qui épuisent ceux qui les vivent inévitablement. Bonjour Chloé Thibault.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de culture et de société. Vous êtes également autrice de plusieurs ouvrages et ce matin, on va s'intéresser plus particulièrement à votre essai « Désirer la violence, ce que la pop culture nous apprend à aimer » paru chez Les Insolentes. Bonjour Sophie Lambda.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis Besançon grâce aux équipes d'ICI Besançon que l'on salue par la même occasion. Vous êtes illustratrice et en 2019 vous avez sorti votre première BD « Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur » paru aux éditions Une case en moins. Et c'est à cette histoire destructrice que vous avez vécue qu'on va s'intéresser ce matin. Bonjour Diana Arcoub-Vitas.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, vous travaillez à l'Institut Psychotrauma de Paris, vous accompagnez de nombreuses victimes de relations toxiques au sein de votre cabinet, mais aussi au sein de l'association AGIC qui vient en aide aux victimes de violences morales. Alors pour définir ce terme de relation toxique, mon premier réflexe a été de regarder dans le dictionnaire. Pour toxique, il y est écrit « Lorsqu'il est un adjectif, toxique signifie qu'il agit comme un poison ». Diana Arcoub-Vitas, quelle est la définition d'une relation toxique pour la psychologue que vous êtes?
Alors pour la psychologue que je suis, une relation dite toxique, c'est une relation qui est dysfonctionnelle par essence et où en fait, il y a surtout dans les relations toxiques à proprement parler, une question d'asymétrie dans les rôles, quel que soit l'orientation sexuelle, on peut trouver une asymétrie et auquel cas, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre, que ce soit par de la violence de tout type, hein, physique, psychologique, sexuelle. Et c'est ça qu'on va définir comme une relation toxique, où il y a un manque de respect et où tout ce qui va être de l'ordre du respect de l'autre, du respect de soi et des accords dans le couple qu'on peut avoir, va être complètement bafoué.
On parle donc d'asymétrie, Sophie Lambda. Dans votre BD, vous racontez une histoire destructrice. Vous retrouvez dans cette définition?
Oui, je me retrouve dans cette définition. Parfois,
C'est parfois un peu plus complexe. Excusez-moi, je fais des pauses, je règle un peu mon casque parce que je m'entends parler.
Ah, d'accord, je comprends.
Tout va bien, tout va bien. Oui, je me retrouve dans cette définition. J'ai aussi l'impression que parfois on oublie aussi de se questionner en tant que victime et de se poser. Ben, c'est le livre de Chloé aussi, hein, désirer la violence. Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on accepte ça? Et qu'est-ce qui fait, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui fait, comment on peut changer ça et arrêter de se retrouver dans ces schémas-là, même si malheureusement des modèles, on en manque un petit peu quand même.
Bah, y a votre BD maintenant, je dirais. Oui. Après, c'est vrai que là, ce qu'on va se demander, c'est pourquoi elle nous attire, comment s'en défaire. Chloé Thibault, justement, Sophie Lambda parlait de votre livre, Désirer la violence. Ce livre, il s'efforce de montrer ce que la pop culture a induit dans nos schémas de relations amoureuses. Et clairement, c'est pas glorieux.
Non, pas du tout. Et justement, le fait qu'on parle beaucoup de relations toxiques, c'en est une preuve. Parce que pour moi, c'est un petit peu un euphémisme, cet adjectif qu'on a mis à toutes les sauces ces dernières années et qui nous empêche de voir concrètement que ce sont des relations violentes et donc dangereuses et parfois, souvent, fatales.
Oui, c'est pas le terme toxique ne suffit pas. Non. Dangereuse, c'est mieux.
Oui,
ouais, on est d'accord. Alors, vous aviez déjà abordé ces relations toxiques dans un autre ouvrage qui s'appelle Pêche au canard et qui a été illustré d'ailleurs par Sophie Lambda, c'est pour ça que vous connaissez. Si vous en parlez si bien, c'est parce que vous-même, vous avez vécu des relations amoureuses dysfonctionnelles ?
Oui, tout l'objet de ce livre, c'était de voir comment, logiquement, j'avais fini par relationner avec un homme violent, puisque depuis la maternelle, j'étais un petit peu coutumière du fait. Mais ce qui m'a alertée en faisant ce travail, c'est de me rendre compte que, depuis toute petite, j'entendais cette phrase qui est « S'il est méchant avec toi, c'est parce qu'il t'aime ». En fait, c'est un discours qu'on entend beaucoup et qu'on entretient au fil de nos vies.
On parle de l'amour vache aussi. C'est vrai qu'il y a plein de formules pour parler de ces relations-là. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on utilisait le mot passion. On parlait de relations passionnelles pendant longtemps. Diane Arcovita, c'est un mot qui a été vraiment mal utilisé.
Très mal, oui, effectivement.
On se rappelle du crime passionnel de Bertrand Cantat qui a assassiné Marie Trintignant. On utilise ce terme de crime passionnel, donc.
Oui, on essaie toujours de minimiser la violence, de toute façon, dans notre société.
Alors, toutes les relations passionnelles ne sont pas toxiques, bien évidemment.
Non, mais en fait, la passion, c'est simplement du désir aussi. Quand on est dans la phase de départ d'une relation, on a beaucoup de désir.
Oui.
Ça n'a rien à voir avec la violence. On peut être très amoureux sans violenter la personne en face. Les insultes ne sont pas nécessaires, quitter quelqu'un n'est pas nécessaire, faire un esclandre n'est pas nécessaire, lui prendre son argent n'est pas nécessaire. Ça, c'est pas de la passion, c'est pas de l'amour.
Oui, ça c'est de la toxicité. C'est aussi, là, ce que vous venez de décrire, c'est un peu ce qui différencie une relation conflictuelle d'une relation toxique.
Tout à fait.
Oui, on est bien d'accord. Sophie Lambda, dans votre BD, vous décrivez les différentes phases des relations toxiques, oui. Il y en a trois. Est-ce que vous pouvez nous les nommer brièvement et on y reviendra après.
Alors la première phase, la plus connue, la plus chouette, hein, la phase lune de miel, la phase love bombing, quand la relation commence, on a l'impression vraiment d'être en face de quelqu'un qui nous ressemble, qui nous correspond, qui va un peu combler toutes les cases, hein, finalement.
C'est l'osmose, c'est la fusion.
C'est la fusion, c'est tout ce qu'on attend d'une relation, c'est tout ce qu'on a presque toujours attendu, je sais pas. Il y a une forme de mimétisme aussi qui se met en place, qui fait qu'on a l'impression d'avoir trouvé la perle rare.
On parle d'âme sœur aussi parfois.
Oui, c'est ça. Moi, j'avais l'impression d'avoir rencontré l'amour de ma vie. Alors ça a duré 3 mois. Ensuite, il y a une phase qui va être plus. Alors, il y a plusieurs. Enfin, il y a plus de 3 phases en soi, mais il va y avoir une phase d'enfermement, de rabaissement qui vient petit à petit. Ça va être se faire dénigrer gentiment au début sur des petites choses où moi, j'osais même pas répondre. En fait, je me disais bon, bah, c'est pas grave, laisse glisser. De toute façon, la relation, elle est tellement géniale, je vais pas commencer à pointer des petites choses qui pourraient qui pourrait détruire ce qu'on a. Donc bon, voilà, c'est des petites choses. Et puis après, ça va être des choses sur l'entourage. Tes potes te méritent pas. Et puis cette personne. Et puis cette personne. Il y a beaucoup de critiques de l'entourage. La phase la plus critique. Moi, c'est la phase où je suis partie. C'était vraiment Beaucoup de reproches, des crises, de la violence. Hein, c'est là qu'arrive la violence, l'emprise. En fait, une fois que l'emprise est vraiment installée grâce au love bombing, en fait, les épisodes dramatiques peuvent arriver plus souvent parce qu'on est ferré. Quoi. Moi, j'étais ferré, ouais. comme un poisson.
L'impression que c'est une mécanique qui s'installe insidieusement et d'un piège qui se referme, en fait.
Oui, ça n'arrive pas d'un coup, parce qu'en fait, malgré le fait que moi, j'ai vécu aussi plusieurs relations toxiques, parce que j'avais des choses à déconstruire de mon côté, je ne suis pas maso non plus, en fait. Je ne suis pas tombée amoureuse d'un homme violent. J'ai eu d'autres débuts de relations où je pouvais sentir la violence dès le départ, je partais tout de suite. Mais là... ça s'installe et puis c'est des zigzags. Il y a une espèce de roller coaster. Au début, ça fait que monter, c'est super. Et puis il y a une petite descente. On se dit que c'est rien, puis ça remonte. Et en fait, plus la relation avance, plus le roller coaster est violent. Mais après, ça revient toujours. On est récupéré avec des beaux gestes, avec un beau week-end, un joli moment, je sais pas, avec beaucoup de rire.
Ça, c'est la manipulation hein, dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on a entendu aussi dans l'extrait de Mon Roi de Mai Wen. Chloé Thibault, ce que dit Sophie Lambda, vous êtes d'accord, j'imagine?
Oui, et c'est précisément là que la pop culture a un rôle à jouer, parce que ce qu'elle vient de décrire, donc le cycle des violences et des violences conjugales, c'est quelque chose, et je pèse mes mots, dont on fait la pub dans beaucoup de séries pour adolescents, adolescentes. Moi, je parle dans mon livre de Gossip Girl. En fait, c'est un schéma qu'on retrouve au fil. Alors souvent, c'est 10 saisons, 12 saisons, des schémas de « il tombe amoureux, mais en fait, c'est compliqué, il se comporte super mal avec elle, il y a une explosion de violence, il fait quelque chose normalement d'impardonnable, et puis ça revient. » Et en fait, ce système-là, on le retrouve même dans des dessins animés Disney. Hein.
Ça, c'est ce qu'on va voir. Là, vous nous faites la pub de ce qu'on va voir dans quelques secondes. Avant ça, je voudrais quand même parler d'autres relations toxiques qui existent. On parle des relations amoureuses, bien sûr, mais est-ce que les relations toxiques, elles apparaissent pas au premier lieu dans le cercle familial, Diane Vitas Arcubitas?
Bah, souvent, c'est le creuset. Hein. Plus généralement, c'est le creuset familial, hein, l'éducation. Puis, un auteur de violence, il n'est pas violent que dans le couple. Quand il y a des enfants, il est violent de façon générale.
La violence au sein de la famille, elle prend une forme différente. Ça reste une emprise.
Ça reste une emprise. On parle souvent de tyrannie familiale. C'est-à-dire, j'avais quelqu'un qui disait, en fait, mon parent faisait la météo au sein de la famille.
D'accord.
Donc, en fait, c'est ça. Et c'est surtout.
Ok. Est-ce qu'on a plus de chances de désirer des relations amoureuses toxiques quand on a été élevé par des parents qui font la météo, comme vous dites?
Je suis pas sûre de pouvoir parler de désir, mais en tout cas, on est habitué à ça. Donc en fait, c'est notre background et on connaît rien d'autre.
Allez, on se réveille!
Quoi?
Princesse Fiona, c'est vous?
Oui, c'est moi.
Yasmine Ouglis.
Je me languis qu'un proche chevalier sans hardis à me sauver.
Non, c'est touchant.
Grand bien vous fasse.
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous eussiez dû par la tour grimper, vous aidant d'une corde nouée et m'enlever sur votre vaillant destrier.
Vous avez dû vous sentir drôlement seul pour cogiter tout ça.
Sur France Inter.
Qu'est-ce qui nous attire dans ces relations qui font plus de mal que de bien? Aurait-on été conditionné à les fantasmer? Dans de nombreux films, romans ou chansons, ces histoires d'amour dysfonctionnelles ont été sublimées, les imprimant dans notre cerveau comme des modèles. Chloé Thibault, c'est en vous questionnant sur vos différentes histoires douloureuses pour l'écriture de votre premier ouvrage que vous avez réalisé que nous étions biberonnés aux histoires d'amour toxiques, à commencer par les films de notre enfance.
Oui, ça commence très tôt dans les dessins animés Disney, en particulier les premiers, ceux qui nous racontent des histoires de princesses, parce que dans ces histoires-là, malheureusement, on retrouve des scènes d'agression sexuelle dont il a fallu attendre des décennies pour qu'on nous en parle comme telles, puisqu'elles étaient présentées comme des scènes de baisers romantiques.
Et lesquelles, alors?
Bah, je pense ici, évidemment, à Blanche-Neige et les Sept Nains, ou bien La Belle au Bois Dormant, où on retrouve une princesse dont, évidemment, le seul objectif, c'est d'avoir les faveurs d'un homme qui va l'épouser et lui faire beaucoup d'enfants, très très loin de sa famille, mais ces scènes-là présentent des princesses endormies, ou plutôt dans le coma, qu'un prince vient délivrer par un baiser d'amour sincère, alors qu'il lui a jamais touché de mots, et que en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment, si on doit le définir légalement, une agression sexuelle. Donc, dès notre plus tendre enfance, petite fille et petit garçon, nous apprenons à romantiser ces scènes-là.
Alors, on va se le dire, regarder le passé avec les lunettes du présent, ça a un intérêt pour expliquer que les femmes, comme les hommes, ont intégré ces idées, finalement, dès l'enfance, et qu'il s'agit de les identifier.
Mais ce n'est pas le passé. On aimerait beaucoup que ce soit le passé, ces scènes-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup
Oui, je parlais des scènes des films Disney dont on vient de parler. Oui. Évidemment, on va avancer. On va voir que c'est toujours présent dans notre présent. Mais ces films-là dont on parle, les films de Walt Disney, ils sont sortis en salle entre la fin des années 30 et la fin des années 50. Diane Arcoub-Vitas, la conception de la relation amoureuse, à ce moment-là, elle était très éloignée de celle qu'on a aujourd'hui. Pour pouvoir avoir écrit tout ça?
Oh, pas tellement. Je pense qu'on est toujours dans le même schéma qu'aujourd'hui, hein, finalement. Mais c'est surtout ce qui se jouait dans la famille à l'époque. On était sur une moindre libération de la femme, quand même. Donc c'était quand même un schéma, finalement, où le sauveur était attendu et la place de l'homme, la place de la femme, c'était calibré. Donc, et puis ça remonte à loin. Il y a quand même une inspiration sur les frères Grimm, il me semble, sur les Disney, sur certains Disney dessins animés. Donc voilà, ça remonte à très longtemps à cette conception du couple homme-femme et de ce que peut être la famille qui est déjà là et qui perdure encore aujourd'hui, je pense.
Oui, même si on essaye d'avancer, on essaye d'ouvrir les yeux. Et j'espère que cette émission, d'ailleurs, y participera. Chloé Thibault, vous m'avez rappelé aussi que là, on a parlé d'anciens Disney comme La Belle au Bois Dormant, Blanche-Neige. Mais finalement, même dans les années 2000, ça a continué. Il faut que vous nous rafraîchissiez la mémoire.
Oui, il y a un Disney Pixar qui est Ratatouille, dans lequel on a une scène absolument absurde où l'héroïne se défend alors qu'elle va être embrassée sans son consentement avec une bombe lacrymogène. Ça, c'est une scène qui est un peu passée aux oubliettes, mais qui est beaucoup plus récente. Mais surtout, quand on parle de la pop culture, on parle de tout un tas de choses. On parle aussi des émissions télé, enfin de toutes les archives en fait, qu'on voit, où on trouve pléthore de, entre guillemets, baisers volés, qui sont des agressions sexuelles. Et quand je disais que c'est pas du tout le passé, c'est qu'en fait, là, récemment, une affaire comme le procès Gisèle Pellicot nourrissait encore, en fait, cet imaginaire de la possibilité d'embrasser, de violenter sexuellement des femmes dans leur sommeil. Donc, en fait, à mon sens, on n'a pas évolué depuis Blanche-Neige et les Sept Nains. Malheureusement.
Vous n'avez pas l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer et que quand même on les écoute là où à un moment donné elles n'auraient pas été écoutées?
On les écoute, mais on ne punit pas plus les agresseurs sexuels.
Je comprends. Alors, vous dites aussi que, quand vous dites qu'on a été élevé en tant que femme dans l'idée qu'un baiser volé était un acte d'amour, ça s'est retrouvé ensuite dans bien d'autres films, en fait, et on n'a pas vu ces moments-là, on ne les a pas perçus comme tels, bien évidemment. Un exemple beaucoup plus récent, avec L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, que vous avez aussi décrypté. On écoute.
Non, mais qu'est-ce que vous faites,
hein ? J'en peux plus, j'ai trop envie de toi.
Non. Mais je suis mariée. Non, je suis mariée. Non, non.
On a réduit cette scène, mais on comprend bien le non-consentement de cette femme. Vous avez pu discuter avec le réalisateur de ce film, Cédric Clapiche, et c'était une discussion apaisée.
Oui, bien sûr. J'étais en colère en fait contre Cédric Clapiche parce que moi j'ai littéralement grandi avec ce film. Je me suis construite avec ce film et un film qui m'a fait croire qu'une scène dans laquelle une femme dit 7 fois non à un homme est une scène romantique. Donc j'étais bien heureuse que le réalisateur accepte de me rencontrer. Et en fait, la discussion était assez vertueuse. Mais lui m'a expliqué que ce sont des choses qu'il a vécues en tant qu'homme, qu'on lui a déjà reproché de ne pas assez insister auprès d'une femme qui aurait bien aimé qu'il se passe quelque chose avec lui. Et en fait, en discutant avec lui, je me rendais compte que moi, en tant que femme, en tant que jeune femme, j'avais moi aussi déjà reproché à un homme d'être trop gentil et de ne pas assez insister. En fin de compte, on s'est retrouvés tous les deux côte à côte, mais fonçant droit dans une impasse et droit dans le mur, parce qu'on nourrit le même problème.
Vous dites aussi, j'ai regardé plusieurs de vos interviews, vous dites aussi que nous nous souvenons tous de nos films d'adolescence, de beaux acteurs qui nous faisaient rêver, de ceux qui nous faisaient rire, mais pas de certaines de leurs répliques choquantes là aussi. On va se replonger dans les années 2000 avec la série How I Met Your Mother. Le personnage Barney Stinson est un des plus populaires de la série. Tout le monde l'aime et pourtant il se vante de compiler son tableau de chasse et ses compiles de dragueurs, je dirais plutôt de manipulateurs.
Ceci, mes amis, est le livre des rôles. Le livre des rôles contient toutes les arnaques, escroqueries, mensonges, manigances, combines, subterfuges, stratagèmes et impostures auxquelles j'ai eu recours et auxquelles j'espère avoir recours pour choper des meufs et leur faire ma petite affaire. Tout est dedans. De la combine de base du genre le « ne bois pas ça ». Oh, ne bois pas ça ! J'ai vu un mec mettre un truc dedans.
Comment ça ? C'était qui ?
Ce mec-là.
Salut !
Je te remercie.
On entend bien dans cet extrait que c'est drôle, c'est sympa, il compile ses petites techniques de drague, de manipulation, et tout le monde trouve ça génial. Sophie Lambda, vous êtes toujours avec nous ?
Oui.
Vous vous rappelez de ces séries ? Ça vous parle ?
Oui, bien sûr. How I Met, moi j'étais une des premières fans quand c'est sorti. Bon, ça a peut-être une quinzaine, vingtaine d'années maintenant. Ça me faisait beaucoup rire en fait, le personnage de Barney Stinson évidemment. À l'époque, ça nous faisait marrer. J'ai essayé de la re-regarder il n'y a pas longtemps, cette série. C'était impossible. En fait, je trouve qu'elle vieillit vraiment trop mal pour le coup. Et il y a des choses aujourd'hui qui me font plus rire, mais comme les blagues grossophobes et homophobes, des choses comme ça, qui passent plus du tout aujourd'hui, mais qui m'ont fait marrer évidemment il y a quelques années. Heureusement qu'on se déconstruit un petit peu.
On a l'impression d'avancer hein, quand on se dit tout ça. Mais après, il y a aussi autre chose, c'est que, vous voyez, ce personnage de Barney Stinson dans How I Met Your Mother, il se trouve oui. qu'alors lui, aujourd'hui, Chloé Thibault, il est repris par les masculinistes sur les réseaux sociaux. Donc, premier degré total.
Oui, ce qui m'amuse, c'est que moi, on m'avance souvent comme argument que tout ça, ça n'est que de la fiction. Et pour autant, mes adversaires idéologiques, les masculinistes, utilisent largement la fiction pour nourrir leurs théories. Et donc, Barney Stinson, c'est un personnage qu'on retrouve assez régulièrement dans leurs discours, tout comme Hitch, par exemple, qui était joué par Will Smith, oui. le coach en séduction.
Oui.
Et en fait, ce sont ces personnages de pick-up artistes, mais qui sont littéralement des harceleurs, voire des agresseurs sexuels, mais qui sont pop culturalisés. Et en fait, c'est ça la culture du viol, c'est aussi traiter de façon humoristique les violences sexuelles. Là, on est en plein dedans, l'extrait qu'on a entendu, aucune règle du consentement n'est respectée, puisque, s'il faut le rappeler, le consentement ne doit pas être obtenu sous la pression, la menace, le chantage. Or, Barney Stinson, ses techniques reposent essentiellement sur la prise d'alcool, la consommation d'alcool. Donc on peut se dire qu'en off, ce qu'on ne voit pas dans la série et qui serait beaucoup moins drôle, ce sont des actes sexuels commis alors qu'elles sont ivres et inconscientes.
Ouais, ce qu'il faudrait, c'est qu'on nous les présente comme elles sont réellement, ces techniques, c'est-à-dire dangereuses. Quand on vous écoute, là, on se dit qu'en fait, on met d'autres lunettes. Maintenant, il faut qu'on mette d'autres lunettes pour regarder toutes ces scènes-là. Alors si la fiction nous a indéniablement conditionné. Diane Arcou-Vitas, quel est le rôle que joue notre éducation dans la construction de nos schémas amoureux ?
Oh ben il est grand, il est très très grand. On a les phénomènes d'attachement à l'enfance, donc quand ils ne sont pas sécures, quand le lien, on va dire aux caregivers, donc aux personnes qui s'occupent de vous, n'est pas sécure, qu'il n'y a pas eu suffisamment d'amour, qu'il n'y a pas eu une réponse aux besoins qui soit cohérente, eh bien on a des choses qui sont plus ou moins dysfonctionnelles et en fait en grandissant, on va développer ce qu'on appelle l'attachement amoureux. Mais en fait, cet attachement amoureux, on en entend parler hein, beaucoup sur les réseaux, attachement évitant, on parle un peu d'attachement chaotique, etc. En fait, ça va être un peu la base de nos relations amoureuses derrière. Donc effectivement, l'enfance et la façon dont on est traité dans son environnement familial précoce a un impact assez gigantesque sur ce qu'on va devenir en fait derrière et sur les failles aussi qui nous composent et sur lesquelles les relations violentes
s'accrocher. Ouais. Alors, notre éducation au sens large nous a conditionnés à fantasmer des histoires qui n'étaient pas saines. Ce qui peut nous attirer aussi, ce sont les émotions que procurent ces relations. Sophie Lambda, on a énuméré tout à l'heure les différentes phases de ces relations toxiques. Oui. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur la première, qu'on peut oui. dénommer le love bombing ? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ?
J'ai l'impression c'est toutes les émotions qu'on va rechercher dans une histoire d'amour, mais x10, x15, c'est vraiment très intense. On a l'impression que le quotidien est bousculé, que les choses, c'est très con, hein, mais voilà, on a l'impression d'avoir des lunettes qui embellissent à peu près tout. Mmh. C'est presque magique, mais en fait, mais même ça, c'est un problème. C'est-à-dire que même si ça basculait pas dans le toxique derrière, même ça c'est un problème parce qu'en fait c'est quoi le vide qui vient du fait qu'on a besoin d'avoir des lunettes d'amour pour tout voir en rose quelque part. Et même ça c'est un problème de demander autant à l'autre personne, c'est déjà un problème et pour moi la toxicité elle commence là aussi.
Bien sûr, ouais, c'est de remplir un vide et qu'il faut qu'on se questionne sur ce vide, on va y revenir après. Les sensations physiques de cette première phase ?
Moi, je me souviens au début, mais très rapidement, j'avais.
Alors, je suis désolée si ça vous replonge d'ailleurs dans non. quelque chose de douloureux.
Non, non, ça va. Non, non, ça, ça fait longtemps maintenant. Il n'y a pas de problème.
Ok.
Moi, au début, j'avais vraiment. C'était la première fois que ça me faisait ça. J'avais vraiment une sensation de manque. En fait, j'avais tellement l'impression d'être en vibreur tout le temps quand j'étais avec lui que quand il partait je trouvais plus le sens quoi, j'étais triste, je redescendais, enfin c'était vraiment la chute mais comme un shoot, comme une prise de drogue quelque part, et la redescente derrière fait hyper mal et je me sentais vide, fallait que j'en reprenne, fallait que j'y retourne en fait.
Ouais, je pense que ce parallèle avec la drogue, évidemment au sens négatif du terme, Diane Arcoub-Vitas, cette sensation physique de manque, comment on l'explique ?
Dans le début des relations amoureuses, on fait fusion avec l'autre. Ça existe de façon assez générale. Donc en fait, on crée quelque chose de très très fort et le manque, il est là. Après, c'est la question de la puissance, en fait, de ce manque. Et ça, cette puissance-là, on peut la retrouver effectivement dans une relation où quelqu'un va devenir tout pour l'autre, en fait. Va répondre à des besoins, et des besoins qui ne sont même pas exprimés. C'est-à-dire que l'auteur de violence devient absolument tout, et il veut devenir tout, en fait, pour l'autre. Il veut devenir voilà, son miroir, son reflet, ce dont il a besoin. Et dans ce cas-là, effectivement, on développe un manque, puisque ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, et puis ça vient combler des failles en soi, souvent, qui sont liées à l'enfance et qui ont été relayées par la société. Et ces failles-là, en fait, normalement, elles devraient être comblées par soi. Mais là, elles sont comblées par l'autre. Et donc, quand on vient arracher violemment ça, eh bien, ça fait encore plus mal. Ça vient faire saigner des blessures beaucoup plus anciennes. Et là, on a un manque qui est abyssal.
Alors, vous avez dit, l'autre veut être tout. Est-ce que cet autre manipulateur, c'est vraiment sa volonté de l'être ? C'est quelque chose de conscient ?
C'est une grande question. Ça dépend des auteurs.
On est là pour ça.
Ça dépend des auteurs. Ouais. Il y a des auteurs qui sont très conscients, et puis il y a des auteurs qui sont, je dirais, beaucoup plus basiques, beaucoup plus archaïques, et en fait, c'est pas conscientisé, mentalisé. Par contre, ils ont ce mouvement interne qui va les pousser. Ah, parce que ça leur fait du bien narcissiquement, en fait. C'est génial d'être admiré. D'être la septième, la huitième merveille du monde dans les yeux de quelqu'un, c'est absolument extraordinaire. Donc ça nourrit. Et ils ont envie de ça.
Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis. Sur France Inter.
Alors, on l'a bien compris, vivre une relation toxique, c'est épuisant pour celui qui en souffre. C'est pas pour autant aisé d'en sortir. Quelles ressources il faut mobiliser pour couper avec celui ou celle qui nous fait plus de mal que de bien?
C'était la première fois que j'habitais avec un homme. J'allais enfin avoir une vie amoureuse normale, être heureuse et épanouie, rire. En partant avec HN, j'avais eu l'impression d'agir en femme libre et indépendante. C'était le contraire, mais je ne le savais pas encore. Je voulais bien faire. Il me disait qu'il fallait décider d'une chose et toujours s'y tenir. Je tentais d'appliquer ce principe. Mais tout ce que je faisais n'était jamais assez bien pour HN. Il me disloquait. La situation se dégradait, mais je m'accrochais. J'avais l'impression d'avoir la vie dont je rêvais. J'aimais cet homme, et pourtant quand il était là, je me sentais de plus en plus fragile, comme atteinte du dedans. Mes forces s'amenuisaient, tant il me consumait.
La comédienne Isilde Lebesco pour le podcast « Sous contrôle coercitif » pour Arte Radio. Diane Arcoub-Vitas, dans quelle étape psychique on est au moment où on veut partir ?
Ça dépend de la durée de la relation, mais quoi qu'il en soit, en général, c'est dégradé, extrêmement dégradé avec des psychotraumatismes.
Elle parle d'être disloquée. Il y a vraiment des termes forts qui peuvent être employés pour décrire cet état. Sophie Lambda, sortir de cette relation, même quand on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce qu'à cause de la manipulation que va exercer la personne violente sur celle qui est sous emprise, en la faisant notamment douter beaucoup.
Oui, douter, culpabiliser, et puis comme par hasard, au moment où on veut partir, c'est toujours le pire moment dans sa vie. Du coup, on est vraiment voilà, la méchante d'oser partir à ce moment dramatique de sa vie. Il y a des événements qui sortent dont on n'avait jamais entendu parler. Tu pars au moment où ma mère est malade. Tu pars au moment où ça peut être plein de choses voilà, qui vont forcer à remettre en question. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on voit aussi le monde comme on est nous. Et vu que moi, je n'irais pas dire à quelqu'un que ma mère est mourante, par exemple, pour retenir quelqu'un, bah, moi, il y a des choses comme ça, j'y ai cru. Et je me disais, oh là là, effectivement, ça va être difficile. Donc, on remet une pièce dans la machine. On se dit, on va redonner une chance. Peut-être que cet exercice difficile, ce passage difficile dans sa vie va le faire réfléchir un peu, va le poser un peu. Enfin, on s'arnaque nous-mêmes le cerveau avec toute une flopée d'excuses.
Et pourtant, alors vous dites on s'arnaque nous-mêmes le cerveau, et pourtant, quand on lit votre BD, on comprend que votre petite voix intérieure, elle était là, vous l'avez personnifiée dans la BD sous forme d'un petit ours. Elle est là, on sait qu'il faut partir.
Bah, moi, je prends mon exemple. Je savais qu'il fallait partir. Au fond, j'avais toujours un espèce d'écho intérieur qui me disait « Mais pourquoi t'acceptes ça? Qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que c'est ça ?» Et puis, des grandes questions après, de dire « Mais qu'est-ce que tu veux dans la vie, quoi? Est-ce que c'est ça ?» Moi, pour moi, en tout cas, oui. Après, parce que c'est finalement, ces relations, on les a quittées. Je pense que c'est le cas aussi pour Chloé aujourd'hui. Mais il y a aussi, je pense, d'autres femmes. Soit elles l'ont, elles ne l'écoutent pas. Soit elles l'ont pas. Ça, on peut pas trop savoir. Est-ce que tout le monde l'a, cette petite voix? Je pourrais pas vous dire.
Ouais, vous avez parlé pour
demander
vous.
À la psychologue. Mais oui, moi, j'ai parlé pour moi.
Alors, on a en ligne Gisèle, qui voulait témoigner ce matin. Gisèle a 61 ans. Bonjour, Gisèle.
Bonjour.
Vous avez vous-même vécu une relation toxique dont vous vous êtes libérée. Et je crois que vous vouliez parler de l'importance des proches.
Oui, l'importance de l'entourage. Je me dis, il faut écouter, c'est compliqué. Moi, je ne l'ai pas écouté au début, et vraiment, peut-être que si je l'avais écouté, je m'en serais sortie beaucoup plus tôt. Mais les gens qui vous entourent, alors si on ne les entend pas, il faut que les gens insistent.
Oui, mais ce n'est pas évident, vous dites vous-même que vous ne les avez pas écoutés, parce que peut-être vous n'étiez pas prête. Qu'est-ce qui a fait que vous les avez écoutés, finalement?
Cette personne avait tellement tissé sa toile autour de moi, c'est vrai que c'était devenu imperméable, jusqu'à une personne de mon entourage au travail, m'a sortie, mais vraiment m'a sortie de cette toile, quoi. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, et c'est grâce à cette personne où j'ai réussi à revivre, quoi.
Donc, on comprend bien, finalement, que quand on est un proche, quand on fait partie de l'entourage d'une personne qu'on voit être dans une relation toxique...
Ça peut se mettre des mois, des années.
Oui, vraiment. Mais il faut insister, c'est ce qu'on comprend avec votre intervention ce matin. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Chloé Thibault, l'entourage, les proches, c'est compliqué pour eux aussi.
Mais c'est compliqué parce que tout ça, c'est un grand système, et on peut aussi avoir des proches qui sont victimes de la même chose sans le savoir. Et d'ailleurs, on peut avoir des parents qui ont eu une histoire absolument toxique et pour qui l'amour, ça ressemble à ça, en fait. Donc c'est très difficile aussi de se reposer que sur les proches. Je sais pas ce que Diane en dirait, mais en fait, c'est vraiment toute une chaîne d'entraide. Évidemment que moi, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de passer la porte d'un ou d'une spécialiste psy. Moi, c'est ce qui m'a largement aidée, mais c'est aussi tout l'objet de mon travail, c'est d'abord de donner des outils pour les identifier, ces violences. Parce que parfois, on est en plein dans notre histoire d'amour et on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On persiste à penser qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, et on pardonne tout sous prétexte que notre cœur vibre très fort.
Ouais, d'où vraiment on comprend l'importance des proches, de l'entourage. Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez un ami qui vit une relation toxique, eh bien voilà, on comprend qu'il faut insister. Continuez peut-être à partager des moments aussi où on parle d'autres choses et où on vit des choses avec son ami. Diane Arcoubitas, c'est un bon conseil?
Très bon, il faut surtout garder des liens. Et surtout s'entourer, rester connecté à son environnement. Et l'environnement doit surtout rester connecté aussi. C'est-à-dire que peu importe la distance, où c'est souvent le cas, les victimes sont isolées, il faut quand même toujours maintenir un lien et ne pas attendre d'une victime qu'elle parte comme ça d'un claquement de doigts. C'est extrêmement compliqué. On ne doit pas avoir d'attente. On doit simplement dire, quoi qu'il se passe, je suis là, en fait.
Je suis là et ce que tu vis n'est pas normal. Selon que ce soit un jeune couple ou qu'il ait fait famille, la situation est différente. Dans le cas d'un couple avec enfant, comment partir ? Il y a une manière de partir.
C'est plus compliqué, ça se prépare.
Oui.
Quand on n'a pas d'enfant, c'est plus... On a soi. Et soi, déjà, c'est compliqué. Mais quand on a des enfants, c'est moins compliqué. Effectivement, ça se prépare. Il faut sécuriser toutes les données qu'on a. Il faut tout enregistrer. Et puis, il faut donner ça à des amis. Il faut mettre ça sur des boîtes mail qu'on crée.
Les échanges, vous voulez dire, avec cette personne ?
Les échanges, les papiers d'identité, les extraits de compte bancaire, etc. Parce que la plupart du temps, pas toujours, hein, mais les gens sont mariés. Mm-hmm. Et donc, souvent, ça part, quand on quitte quelqu'un, eh bien, ça part devant la justice. Et après, on doit, en fait, justifier d'un certain nombre de choses. Et quand on n'a pas les éléments et qu'on les demande à la partie adverse, bah, vous pensez bien que violent un jour, violent toujours. Donc, ça passe après par les avocats et la violence continue devant les tribunaux.
Donc, non seulement il faut s'extirper d'une situation qui, psychologiquement, nous a détruits, mais en plus, il faut se blinder, donc juridiquement, et préparer sa sortie. Il y a des associations, Chloé Thibault, qui peuvent aider, des réseaux sociaux, sur quoi on s'appuie, autre que l'entourage.
Il y a un immense tissu associatif, malheureusement, qui aurait besoin de bien plus de moyens. Là, si je dois citer... Enfin, quelqu'un. Je pense à En Avant Toutes parce que c'est une association qui œuvre notamment auprès des jeunes publics. Et Diane me dira si je dis une bêtise, mais on minimise les violences conjugales chez les jeunes parce qu'on a tendance à se dire que c'est des petites amourettes de collège et de lycée. Or, ça commence très très tôt. Et quand on entre dans sa vie amoureuse avec des violences conjugales, il y a peu de chances qu'on se remette sur le droit chemin ensuite. Mmh. Donc moi, je recommande vraiment En Avant Toutes, qui en plus a un chat gratuit qui est vraiment parfait pour les victimes ou les témoins, ou les proches de victimes.
Et oui, bien sûr, c'est important. Mmh. Moi, je pense à Sarah Baruch aussi, qui a vécu des violences conjugales pendant de nombreuses années, qui en témoigne et qui aide beaucoup sur les réseaux. Sophie Lambda, vous écrivez « Ranger cette histoire sans l'avoir comprise, ça aurait été le chemin le plus sûr pour retomber sur un manipulateur plus tard. Mmh. Qu'avez-vous compris a posteriori ?»
Quand j'ai écrit ça, je voulais dire déjà, au final, je me suis rendu compte avec du recul que c'était pas la première, en fait. C'était la première vraie histoire, mais en fait, j'en avais déjà vécu plus jeune. C'est juste que j'étais trop jeune. Mais le vivre à 30 ans et voir que ça continue, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que tu te poses des questions pour avancer et pas reproduire, parce que ça peut pas durer toute la vie, ça. Donc moi, ce que j'ai appris déjà, c'était... J'ai dû consulter, évidemment, je me suis fait aider, j'ai pas fait ça toute seule, j'ai lu, j'ai écouté plein de choses, mais je me suis fait aussi... Je suis allée en thérapie pendant plusieurs années. J'ai appris que j'avais un grand vide intérieur, une grande solitude depuis toute petite, en fait. Finalement, j'ai toujours été... assez seule, assez à part, pour plein de raisons différentes, mais et que finalement, quand je tombais dans des relations toxiques qui me faisaient vibrer très fort, c'était comme moi j'étais très bien toute seule, mais c'était comme être seule mais à deux, et ouais. je me sentais plus seule, et j'ai eu besoin de comprendre ça, pourquoi j'étais comme ça. Est-ce que être célibataire c'est grave aussi, parce que je pense que j'avais aussi ce truc de être célibataire c'est l'enfer et c'est mal vu et ça veut dire qu'on est rejeté par la société, surtout en tant que femme. Enfin, j'ai aussi et je travaille toujours dessus, hein, c'est des problématiques qui sont toujours actuelles et je pense pas que la thérapie c'est game over, un jour on peut se dire qu'on a terminé le jeu et tout refermer. Je pense que c'est le travail sur soi, c'est un petit peu à vie, et j'y travaille,
c'est le travail d'une vie, bien sûr. Chloé Thibault, vous pensez aussi que cette introspection après une relation aussi destructrice, elle est indispensable?
Oui, bah on peut parler que pour soi. Hein. Moi, il est clair qu'elle a été indispensable et qu'elle continue. Mais ce que dit Sophie m'évoque le fait que aussi au cinéma, dans les séries, enfin la fiction globalement, nous apprend que nous sommes de toute façon des êtres incomplets. C'est-à-dire que la grande quête de toutes les histoires, même dans les films d'action, c'est de trouver une moitié. Et moi, ça c'est une expression que je remets aujourd'hui beaucoup en question. Ma moitié, je cherche ma moitié. Non. J'attends aujourd'hui des films et des livres qu'ils m'apprennent que je suis complète et que la relation amoureuse, c'est la cerise sur un très beau gâteau.
Alors ça, c'est marrant parce que c'est une phrase que vous avez utilisée toutes les trois pour définir ce que devrait être une relation amoureuse. La cerise sur le gâteau, avoir déjà en soi, en tout cas, un bonheur intérieur qui soit après complété par quelqu'un d'autre, mais que ça aille très bien seul. Déjà, c'est la première des choses. On a bien parlé de ces relations amoureuses dont il est difficile de se défaire quand elles sont toxiques. Lorsqu'il s'agit des relations familiales, Diane Arcoupe-Vitas, couper, là aussi c'est difficile de couper par exemple avec ses parents.
C'est très compliqué, oui. Oui, oui, c'est très compliqué. Alors, ça dépend si on est mineur ou si on est majeur. Quand on est majeur, c'est plus simple en soi que quand on est mineur. Mais oui, c'est extrêmement compliqué, mais parfois c'est nécessaire.
C'est nécessaire. Pour ça, il faut avoir acquis une indépendance par rapport, une indépendance psychique par rapport à ses parents. Mais aussi, je crois que, quelles que soient les relations dont il s'agit, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, ce qui peut nous aider, c'est la confiance en soi, Diane Arcovitas.
Oui, encore faut-il en avoir.
Donc ça se travaille ?
Ça se travaille. Ça se travaille en thérapie, ça se travaille en développement personnel, ça se travaille. Et puis se remettre en question sur son mode de fonctionnement, puisqu'on a acquis, en fait. On est pris dans la même toile, hein, dans l'intrafamilial, c'est la même chose que dans les relations amoureuses. On est pris avec ses propres failles, ses propres modes de fonctionnement, ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris, que ce soit avec ses parents, à l'école, dans les relations avec les pères, PAIRS, mais aussi dans la culture. Donc on a tout ça et on se trimballe tout ça. Donc la question, c'est d'apprendre à fonctionner, à communiquer différemment, à proposer une autre forme de relation, une autre forme de communication. Et si en face, les gens ne sont pas capables de changer, ne veulent pas changer, et ne peuvent accepter la proposition, alors on s'en va. Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de bonnes relations fonctionnelles et que ça sera toujours destructeur. Et ça, on n'en a pas besoin. Et c'est se préserver soi et se faire valoir soi avant, finalement, une relation qui est destructrice.
Et dans le cadre d'une thérapie, on peut travailler cette confiance en soi, même si là aussi, je pense que ça peut être le travail d'une vie.
France Inter, grand bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
Je l'ai dit en début d'émission, on va essayer d'ouvrir des perspectives. Alors, on va se demander comment ne pas transmettre ces schémas aux futures générations. On va essayer de leur faire ce cadeau. Chloé Thibault, on peut commencer par mettre en garde les parents qui nous écoutent sur l'influence négative que les romans de dark romance peuvent avoir sur nos ados.
Oui, la dark romance, c'est un gros buzz littéraire qui justement reprend toute cette idée de la passion dark, comme le nom l'indique, où on retrouve des ténébreux mafieux qui kidnappent des jeunes femmes et qui leur laissent, par exemple, 365 jours, c'est le titre d'une dark romance qui a été adaptée en film, 365 jours pour tomber amoureuse de lui.
Enfin, 50 nuances de gris était pas mal aussi. Hein,
oui, c'est genre. Ça. Mais en fait, ça surfe là-dessus, ça reprend ce filon. Alors oui, en effet, il faut qu'on soit alerte sur la question de la dark romance, mais encore une fois, j'insiste, il y a beaucoup, beaucoup d'autres productions qui sont bien plus insidieuses, puisqu'on retrouve les mêmes schémas, mais qui ne sont pas présenté comme étant dark.
Ouais. Là, vous dites que c'est dans le titre. Mais bon, vu qu'il les adore, je pense quand même que le rôle des parents, c'est d'aller avoir ce discours qui va faire que, on s'en éloigne. Même si vous avez raison, il faudra aller chercher dans les autres œuvres, puisque c'est partout. Nos ados, toujours très présents sur les réseaux sociaux, peuvent être confrontés à des discours masculinistes qui font froid dans le dos. On écoute un extrait d'un documentaire de France 5, Mascu, les hommes qui détestent les femmes.
Les femmes sont attirées par les hommes qui sont supérieurs à elles.
Oui, il y a des différences au niveau des salaires, mais ça s'explique aussi simplement parce que les femmes sont beaucoup moins ambitieuses que les hommes.
Une femme, c'est comme du lait. Faut vite le consommer avant la date de péremption. Alors qu'un homme, c'est comme du vin. Ça va devenir un grand cru.
Tu dois la punir lorsqu'elle te manque de respect.
Le pire, c'est qu'ils y croient. Diane Arcovitas, quelle attitude adopter en tant que parent quand on sait que nos ados sont sur les réseaux sociaux et qu'ils peuvent entendre ces discours ?
L'idée, c'est d'essayer de communiquer avec son ado. Donc, de ne pas juger forcément ce qu'il regarde, puisqu'on va se confronter à un mur. Hein. Souvent, l'adolescence, c'est ça. Donc, si on commence à critiquer frontalement, on se retrouve avec une porte qui claque. L'idée, c'est de remettre de la communication. En fait, avec son ado, et de s'intéresser aussi à ce qu'il regarde et de pouvoir discuter, remettre de la communication et réexpliquer ce que c'est que de devenir adulte, quel que soit son genre, finalement.
On regarde en tout cas ces vidéos peut-être avec eux, puis on les décortique.
Exactement.
Comme vous dites, le dialogue. Que la famille soit un espace d'échange bienveillant, oui. Que la communication règne. On a reçu beaucoup de messages pendant cette émission, je suis très contente. Notamment un de Anne qui dit « J'ai vécu l'horreur il y a 6 ans, ma fille était sous emprise d'un pervers narcissique de la pire espèce. » J'ai du mal à prononcer le mot même, vous voyez. « Et la BD de Sophie fut l'un des outils qui m'a aidée à lui ouvrir les yeux. » Sophie Lambda, c'est le meilleur message qu'on puisse recevoir et j'imagine que que ce livre, vous auriez aimé y avoir accès avant de l'écrire.
C'est ça. C'est... En fait, moi, quand j'en ai eu besoin, j'ai fait des recherches. Les bouquins de développement personnel, c'est parfois un peu long. Pour moi, je parle que de moi, évidemment, j'ai du mal. Des fois, c'est un peu barbant, c'est un peu long, c'est pas très ludique. Et j'ai cherché une œuvre un peu ludique qui pourrait m'aider. J'ai pas trouvé. Et c'est là que je me suis dit, peut-être que je vais la faire, en fait. J'ai vraiment essayé de faire le bouquin que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Mmh. Donc, si c'est aujourd'hui les autres à qui ça profite, eh bien, c'est tout ce que je voulais.
Et je précise que c'est très drôle. Voilà.
Oui, aussi.
J'ai vraiment. Enfin, alors, c'est drôle et en même temps, c'est saisissant.
Drôle et tragique.
Voilà. C'est un peu les deux. Si vous pouviez, puisqu'on parlait des enfants, des ados, si vous pouviez parler à l'adolescente que vous étiez, quel conseil vous lui donneriez ? C'est dur. Ouais, c'est dur.
C'est une question difficile. Je pense que c'est compliqué parce que moi j'écoutais rien. Non, je crois pas qu'on peut travailler sur soi quand on est ado. C'est trop tôt en fait. Mais puis moi j'écoutais rien. J'étais vraiment une sale gosse. Mais j'aurais essayé de lui dire quelque chose pour qu'elle comprenne que le regard des autres compte moins que ce qu'elle pense.
Ouais.
Mmh. Et que la taille de ses cuisses, on s'en fout, quoi. Je pense qu'on passe, quand on est adolescente, hein, je sais pas comment sont les jeunes d'aujourd'hui, mais moi j'approche de la quarantaine et ma génération, quand on était jeune, on passait beaucoup de temps à se torturer par rapport à notre corps.
J'ai une petite idée, j'ai pas mal d'ados à la maison et j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'ont rien arrangé en plus.
Non.
Voilà, d'où
non,
l'importance de ces messages. Aujourd'hui, merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette discussion qui, je l'espère, participera à un changement de regard collectif. Merci beaucoup Diane Arcoub-Vitas pour vos conseils de psychologue et votre regard de professionnel. Sophie Lambda, votre BD « Tant pis pour l'amour » ou « Comment j'ai survécu à un manipulateur » est disponible chez Une Case en Moins. Chloé Thibault,
oui.
Pardon ?
C'est chez Delcourt, Une Case en Moins, c'est la collection, mais c'est les éditions Delcourt.
D'accord, merci pour cette précision, je ne savais pas. Chloé Thibault, votre essai « Désirer la violence, ce que la pop culture nous a appris à aimer » est également disponible aux éditions Les Insolentes.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.